Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir, merci d'avoir choisi Aligre FM pour passer votre soirée sur le 93.1, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Version originale. Les colonisations, le colonialisme, le post-colonialisme forment un sujet que j'aborde souvent dans cette émission. Aujourd'hui, je saisis donc l'occasion de la parution du livre de Meriem Larribi, Sigi l'humanité, pour parler de la colonisation que subissent les Palestiniens, pour évoquer la souffrance du peuple palestinien depuis de longues années et depuis le 7 octobre 2023. Gaza, le génocide et les médias, c'est le propos du livre de Meriem Larribi publié aux éditions Critique. Sigi l'humanité avec une préface d'Alain Grech. Sous la forme d'un journal de guerre, le livre raconte les terribles événements qui se déroulent à Gaza, les massacres perpétrés à Gaza, ainsi que les événements qui ont lieu dans le monde entier, qui ont rapport à Gaza. Le regard de Meriem Larribi est un point de vue décolonial, qui dénonce notamment le traitement journalistique effectué par les médias occidentaux sur ce qui se passe à Gaza. Bonsoir Meriem Larribi.
Bonsoir Patrick.
Bienvenue à Aligre FM, vous êtes donc journaliste indépendante, vous collaborez au Monde diplomatique et à Orient 21. Votre livre donc est écrit à la première personne, votre écriture est très précise, incisive, agile, parfois elle prend son temps. Le point de départ de ce texte, Meriem Larribi, c'est le fil de votre compte Twitter qui est X aujourd'hui. Donc vous adoptez un point de vue décolonisé, vous êtes impliqué. En même temps, vous procédez avec méthode et rigueur dans l'énonciation et la dénonciation des faits. Ça, c'est très important. Vous citez vos références, vos sources, bien que vous soyez, bien sûr, bien que vous preniez position. Alors, avant d'entrer donc dans le contenu de votre livre, racontez-nous un peu comment vous avez écrit ce livre.
Ouais. Déjà, merci de me recevoir. Donc, ce livre, il part d'une proposition de l'éditeur, des éditions Critiques, qui vient vers moi après m'avoir vu effectivement sur les réseaux sociaux, à travers et mon compte Twitter et des vidéos qui ont beaucoup circulé de mes visites à l'Élysée et au Quai d'Orsay régulièrement pendant des mois, où j'allais interroger les porte-paroles du gouvernement sur la situation à Gaza. Et donc l'écriture de ce livre, elle, quand il m'a proposé ça, je me suis dit qu'il fallait raconter l'histoire en train de se faire en ce moment. Et je pense que d'ailleurs que c'est un peu le premier livre qui raconte l'histoire vraiment de manière aussi, disons, détaillée de la première année du génocide des Palestiniens de Gaza entre le 7 octobre 2023 et le 7 octobre 2024. C'était ça l'idée au départ. J'ai commencé à écrire en juillet 2024 dans l'espoir que d'ici le 7 octobre 2024, il allait y avoir un cessez-le-feu qui n'est jamais arrivé, enfin qui est arrivé bien plus tard pour deux mois. Et donc le récit du livre se concentre sur cette première année. J'ai débordé un petit peu parce qu'il est parti à l'impression en janvier. Donc j'ai aussi ajouté des éléments jusqu'au moment où il part à l'impression et jusqu'au jour où il part à l'impression, qui était le jour de l'annonce du cessez-le-feu, du premier cessez-le-feu de deux mois qu'il y a eu le 15 janvier, à partir du 17, mais l'annonce était le 15 janvier. Et donc je raconte les événements, je me dis il faut absolument consigner cette histoire parce que il y a eu un naufrage médiatique, une défaillance totale des médias occidentaux par rapport à ce qui se passait à Gaza. C'est-à-dire pendant des mois, un enfant palestinien a été tué ou blessé toutes les 10 minutes à Gaza. On avait 100 enfants tués par jour et ce n'était pas une information dans les journaux télévisés français. Ça ne considérait pas ça comme une information. Gaza pouvait être absent des journaux télé pendant 3 semaines alors qu'il y avait des milliers et des milliers de morts, le Gaza totalement détruite, c'était pas considéré comme quelque chose d'important. Je parle bien sûr des médias audiovisuels dominants. Maintenant, dans les médias écrits, etc., il y avait des choses, mais il y a quand même une grande défaillance. Il y a beaucoup d'informations, je pense, qui sont dans mon livre, qui n'ont pas été traitées, pratiquement pas du tout. Il y a même des informations que j'ai, moi, sorties parce que je lis l'arabe et que j'ai trouvées dans les médias arabophones. Et donc, voilà, je voulais mettre un maximum d'informations pour que ça soit jamais oublié et pour que ça serve à l'avenir pour éventuellement les historiens du futur. Et puis même pour nous, parce que, pour tout vous dire, même moi, quand parfois je suis amenée à relire des extraits du livre, eh bien, je me souviens. Parce qu'en fait, on a été confrontés à une telle somme d'horreurs au quotidien, qu'on peut pas en fait se souvenir de tout, on oublie. Et tous les gens qui ont lu le livre m'ont dit ça, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont vraiment suivi un peu comme moi en fait tous les jours ce qui se passait et qui se souvenaient plus de certains événements, de certaines déclarations, etc. De revoir l'enchaînement, la manière dont a été construit le consentement occidental à ce génocide. Et assez affligeante, et je pense que c'était aussi l'objet du livre, c'est de montrer par quel biais médiatique, par quel type de propagande on a fait consentir aux sociétés occidentales ce massacre de masse, ce génocide, cet urbicide, cet infanticide, parce que les enfants représentent pratiquement la moitié des victimes de ce massacre. C'est du jamais vu.
C'est du jamais vu.
Ce médiacide, les journalistes aussi, jamais autant de journalistes n'ont été tués sur un terrain de guerre, entre guillemets. Je mets toujours guerre entre guillemets, parce qu'il s'agit d'un massacre, tout simplement. Quand le rapport de force est aussi disproportionné quand le nombre de victimes est aussi disproportionné, on est confronté à un massacre. Cet écocide, il n'y a plus rien à Gaza. C'est éducide aussi, l'éducation. Je veux dire, il n'y a plus futuricide. Ça, c'est aussi très important parce qu'ils ont détruit toute la génération des Palestiniens vivant actuellement. Et c'est difficile de voir l'avenir, donc c'était important pour moi de décrire tout ça méthodiquement. Il faudrait peut-être une suite parce que malheureusement, ça continue depuis la reprise du génocide le 18 mars et jusqu'au moment où on se parle, les Palestiniens n'ont pas eu de répit. Donc il faudrait une suite. Peut-être que si un jour il y a une nouvelle édition, j'ajouterai tout ce qui s'est passé depuis mars. J'espère que ça va bientôt s'arrêter et qu'on en finisse, parce que c'est assez terrible à suivre au quotidien. J'ai écrit le livre comme ça, en temps réel, vraiment, c'était en temps réel. Donc je suivais à la fois les événements en train de se dérouler pendant que moi j'écrivais, puis je revenais sur les mois qui avaient précédé. Du coup, j'avais double dose d'horreur et d'événements horrible. Alors, c'est pas seulement une chronologie, c'est ça qu'il faut
une réflexion.
Voilà, il y a une réflexion, c'est ça. Et il y a une mise en perspective des événements, c'est ça l'idée. C'est que c'est une mise en perspective historique et c'est raconter cette histoire du point de vue du colonisé, du point de vue du dominé, du point de vue, je pense, sans prétention, du palestinien. C'est-à-dire que c'est le regard des anticolonialistes. Et c'est pas du tout ce qui nous a été servi dans les médias dominants. Et ça, je le montre et je le démontre. C'est-à-dire que nos voix n'ont pas été exprimées. La façon dont je raconte cette histoire n'a été que très peu défendue. Donc voilà, je me suis sentie un peu... je me suis attelée à ça parce que ça me paraissait... ça me paraissait un travail important à faire pour l'histoire.
Myriam Laribi, c'est aussi l'occasion aussi de déconstruire. J'entends par là, c'est que c'est en même temps le génocide le plus documenté qu'on vit, avec une construction verbale qui empêche de le penser comme tel. Donc il y a en face de ça une propagande israélienne. Alors ça remonte à très très loin. Par exemple, est-ce qu'on peut s'arrêter aussi sur certains thèmes qu'on a du mal à, qu'on refuse de distinguer, par exemple, sionisme, antisionisme, antisémitisme, qui ne sont pas pareils. L'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme, par exemple. Ça, c'est on fait en sorte que on voudrait que ce soit exactement pareil, alors que ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire?
Alors oui, c'est le génocide. Donc, comme disait Francesca Albanese, rapporteur spécial de l'ONU sur les territoires palestiniens, c'est le génocide le mieux documenté et le plus outrageusement vanté de l'histoire. C'est-à-dire que tout le monde l'a sous les yeux depuis 21 mois, ce génocide, et il est en même temps vanté, défendu, justifié, sans vergogne, sans honte. C'est assez terrible, c'est-à-dire d'assister à une situation comme celle-ci. On a vu hier, par exemple, il y a eu le dîner du CRIF, hier, et avec le président du CRIF qui ose encore parler face à cette situation et qui ose dire une phrase qui est extrêmement choquante. Il dit que nous, les gens qui défendons les Palestiniens, une part de nous, en fait, il dit que ce génocide n'existe pas, qu'il n'y a pas de génocide, et qu'en fait, une part de nous le souhaiterait pour pouvoir accabler les Juifs. C'est-à-dire, c'est quel niveau de perversité, de perversion et d'obscénité morale que de sortir des choses comme ça? Comment on peut souhaiter pour des gens que l'on défend qu'ils soient réellement en train de subir un génocide? Non, monsieur, non. On n'est pas, on souhaite pas. On aimerait bien ne pas assister tous les jours au massacre d'enfants, avoir des scènes horribles de venant de Gaza. Et donc, pour répondre à votre question, oui, il y a eu évidemment la mise en place d'une armada d'éléments de langage visant à intimider toute personne qui soutient les Palestiniens. Ça passe bien sûr par l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme et à travers elle l'instrumentalisation de la souffrance juive dans l'histoire. Et dès que vous critiquez Israël, vous êtes accusé d'être antisémite ou si vous dites que c'est un génocide, comment osez-vous dire à propos des Juifs qui ont vécu la Shoah qu'ils peuvent commettre un génocide? C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment c'est le niveau le plus ras des pâquerettes de la réflexion. Comme si quelqu'un qui a subi une violence ne peut pas la reproduire, ça n'a absolument aucun sens. N'importe qui a un peu de vécu peut voir que c'est pas ce qui se passe dans la vie. Et bien sûr, oui, donc l'amalgame antisionisme-antisémitisme, alors que l'antisémitisme, c'est s'en prendre aux Juifs juste parce qu'ils sont Juifs, parce que voilà, il y a des clichés concernant les Juifs, etc. Et l'antisionisme, c'est se battre contre une idéologie coloniale, raciste, suprémaciste, et dont l'application est la colonisation de la Palestine, et qui, depuis 1948, n'est que nettoyage ethnique, massacre, expropriation, expulsion, apartheid et maintenant génocide. Donc c'est quand même une honte de dire que antisémitisme égale antisionisme. C'est comme si, moi je compare ça, c'est comme si des musulmans disaient « Vous n'avez pas le droit de critiquer Daesh, sinon vous êtes islamophobe. » Pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. C'est insensé. Et puis c'est même dangereux, en fait, je pense. Si on disait ça, on est d'accord que ça serait dangereux pour les musulmans d'amalgamer les musulmans tout entier à Daesh. Ça serait vraiment... Enfin, moi, en tant que personne, d'ailleurs, venant de la culture musulmane, je serais choquée que quelqu'un, que des représentants de la communauté musulmane disent ça. Eh bien, je pense que beaucoup de juifs sont choqués que les représentants, soi-disant, de la communauté juive disent que critiquer Israël, c'est être antisémite. Alors que le monde entier voit ce que fait Israël aux Palestiniens, aux civils palestiniens, aux enfants palestiniens. Donc c'est prendre en otage en fait les Juifs du monde et dire voilà, si on critique la politique et les actes criminels militaires d'un État, alors on serait antisémite. Qui fait ça en fait? Personne fait ça. Personne ne fait ça. Vous avez le droit de critiquer tous les États du monde, mais Israël, non, parce qu'ils ne savent pas comment défendre leur projet, en fait. Il n'y a rien à défendre. Donc, ils te disent, si tu nous critiques, c'est une menace existentielle. Oui, parce que votre existence, l'existence même d'Israël, dès le départ, on peut en parler si vous voulez, moi je suis très à l'aise avec ça, basée sur une chose, enfin, sur l'existence est illégitime, depuis le début, en fait, depuis le premier jour. C'est, la Palestine n'a pas été décolonisée en même temps que l'Algérie, tous les autres pays, l'Afrique, etc. On a oublié la Palestine, dans, moi c'est ce que je dis dans mon livre. C'est-à-dire que c'est une colonie européenne. D'ailleurs, on a vu là, le compte Twitter de l'État d'Israël a tweeté encore avant-hier, débarquement de juifs d'Europe, de France, des Pays-Bas, pour s'installer en Israël. C'est quoi ça, si ce n'est des colons ? C'est quoi l'Alia, en fait ? Si ce n'est une colonisation permanente, et une colonisation qui a cette particularité, qui est une colonisation de grand remplacement. Là, on peut parler de grand remplacement. Ici, on nous parle souvent de grand remplacement avec les immigrés et tout. Ben là-bas, et d'ailleurs, les mêmes, vous remarquerez, les mêmes qui nous parlent de soi-disant grand remplacement en France, par l'immigration, l'immigration toute simple, en fait, de gens qui viennent pour des raisons économiques ou politiques.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Là-bas, c'est pas ça. Là-bas, c'est vraiment un projet colonial de grand remplacement. Il s'agit de ramener des gens, des Européens, pour, majoritairement, pour remplacer le peuple autochtone, le peuple palestinien. Donc, pour la, concernant la légitimité de l'État d'Israël, pour moi, c'est pas un État tel qu'il a été construit, en tout cas, pas un État légitime. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est l'application d'une théorie coloniale, le sionisme. Théodore Herzl, au départ, assume totalement d'être un colon. Il dit, parce que Théodore Herzl, c'est la fin du 19e siècle, et il dit...
avec une culture venant de l'Europe, d'ailleurs. Il est européen, culturellement.
Bien sûr, totalement. Et qui dit dans son livre L'État juif, il dit nous serons le phare avancé de la civilisation occidentale au Moyen-Orient. Et il parle de colonialisme, parce qu'à l'époque c'était bien vu d'être colon. À la fin du 19e siècle, personne ne se sentait honteux de se dire colon, au contraire, c'était revendiqué, il fallait coloniser, c'était bien. Et puis après ça a changé. Et maintenant, les sionistes, ils s'adaptent toujours. Ils sont très forts en communication. Enfin, très forts. Une fois que vous avez compris un peu le principe, c'est pas très très fort. Mais en gros, c'est passé d'un projet colonial assumé à finalement, aujourd'hui, ils nous disent non, en fait, on n'est pas des colons. On a toujours été là. Nos ancêtres étaient là il y a 3000 ans. Donc, on a le droit d'être là. Moi, bien sûr, je ne conteste pas la présence juive en Palestine, qui est effectivement ancestrale, bien sûr. Mais après, c'était une minorité. Quand, dans les années 20, les années 40, et puis en 40, il commence à arriver dans les années 45, après la Seconde Guerre mondiale, et là, il y en a plus. Mais avant ça, c'est une minorité, en fait, les juifs en Palestine. Mais ils vivaient bien avec les autres communautés. Il y a des chrétiens, c'est la Terre Sainte. Donc, des chrétiens, des juifs, des musulmans, mais c'était une minorité. Donc, ils ont changé de discours. Et maintenant, ils disent, non, en fait, on a toujours été là. Il y a certains fous un peu allumés pro-israéliens qui disent carrément que les Palestiniens, c'est eux les colons. Alors, là, on est vraiment dans l'inversion totale.
Alors il y a un autre aspect, j'ai envie de dire aussi d'une forme de manipulation qui est donc il s'agit donc de contextualiser le 7 octobre 2023. Je cite, donc vous reprenez la citation, les propos de Leila Al-Ariad, qui est journaliste, donc elle déclare donc en août 2024, je la cite, si je comprends bien la logique d'Israël, c'est que rien ne justifie le 7 octobre, mais le 7 octobre justifie tout. C'est-à-dire que on a l'impression que tout commence le 7 octobre. Évidemment, ces massacres du Hamas sont effectivement indéfendables au plan humain. Évidemment, on a tué les innocents. Mais ce n'est pas le début d'une situation.
Non, ce n'est pas le début. Et puis, ils sont explicables. Ça, parce qu'on nous a dit c'est injustifiable. C'est injustifiable, très bien. On est tous d'accord que kidnapper des enfants, tuer des civils, c'est pas bien. Ça, c'est clair. C'est pas défendable au niveau de la morale. Simplement, c'est explicable. Le 7 octobre arrive dans un contexte. Et ça, ce contexte, on n'avait pas le droit de l'expliquer après le 7 octobre. On est vraiment tombé dans une propagande totale, comme si la France était je parle de la France, là. Comme si on était en état d'urgence, qu'il fallait pas laisser passer certains mots. Il y avait des mots interdits et des mots imposés. Donc, on était dans la propagande pure. Par exemple, vous deviez absolument, rappelez-vous, dire Hamas. Alors, il valait mieux même le prononcer Hamas, comme ça faisait plus méchant. Et terroriste, attaque terroriste, barbare, etc. Et vous ne pouviez pas choisir vos mots. Par exemple, expliquer que le Hamas n'est pas qu'une organisation terroriste, même s'il est considéré comme organisation terroriste ici. Mais ceux qui essayaient d'expliquer que c'est une organisation politique qui a une branche armée qui, elle, commet des actes effectivement qui relèvent du terrorisme, puisqu'ils ciblent de manière indiscriminée des civils, et qui essayait de dire aussi, pour certains, bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de le dire, mais on pourrait le dire en tout cas, que si le terrorisme s'est ciblé de manière indiscriminée des civils, que fait Israël ? Est-ce qu'Israël n'est pas un État terroriste ? Voilà, vous ne pouviez pas. Vous étiez sommé par les journalistes et les médias ont joué un grand rôle dans cette propagande. Et il y avait des mots interdits. Vous ne pouviez pas parler de résistance. Pourtant, résistance est un mot factuellement juste par rapport à même à la... c'est-à-dire, la résistance, c'est quand quelqu'un réagit à une situation d'oppression. Et les Palestiniens ont réagi et réagissent encore aujourd'hui à une situation d'oppression. Quand les Palestiniens s'en prennent à des Israéliens, c'est une situation de résistance par rapport... C'est factuel, c'est pas... Ici, en France, résistance est un mot connoté positivement par rapport à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est juste factuel. Ça peut être la résistance avec des actes de terrorisme dans cette résistance. Mais c'est factuellement de la résistance. Mais vous ne pouviez pas le dire. Et oui, le 7 octobre était présenté comme le jour zéro. Et comme si, un jour, des gens barbus, méchants, se sont réveillés et se sont dit « On va juste tuer des Juifs qui sont tranquillement chez eux. » Alors, c'est pas du tout ça. C'est des Palestiniens. Donc, d'ailleurs, le Hamas a été rejoint par un grand nombre de gens qui ont vu les portes ouvertes, que le Hamas avait forcé les portes de Gaza, qu'ils avaient réussi à détruire les checkpoints. Et donc, il y a des centaines de personnes qui sont allées se venger, en fait. Parce que la plupart des habitants de Gaza, et ça on nous l'a très peu dit, 80% des habitants de Gaza sont des réfugiés qui viennent du sud d'Israël où ont eu lieu les attaques. Ils ont été expulsés de chez eux. Ils vivent en tant que réfugiés. Ils sont soutenus par l'agence de l'ONU, l'UNRWA, pour vivre. C'est-à-dire, ils ne sont pas à Gaza, ils sont en Palestine, mais ils ne sont pas chez eux. Chez eux, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Israël du sud, là. Pardon. Donc, en fait, ils sont allés se venger. Ils ont tous des gens, des membres de leur famille, dans les centres de détention israéliens, des détentions arbitraires. Israël a emprisonné en tout plus d'un million de Palestiniens. Je ne sais pas si on se rend compte, et beaucoup d'entre eux sont sous le régime de la détention administrative, c'est-à-dire otages. On ne parle jamais d'otages palestiniens, mais il s'agit de ça en fait. C'est des gens qui sont arrêtés, ils ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés, et on ne leur dit pas ce qu'on leur reproche, ils n'ont pas le droit à un avocat, ils n'ont pas le droit de se défendre, et ils sont emprisonnés pour une période de 6 mois renouvelable à l'infini. Il y a des gens qui sont en détention administrative depuis des années, ça s'appelle une prise d'otage. Pas parce que... C'est-à-dire, bien sûr, le Hamas a pris des otages, mais Israël aussi prend des otages. Mais comme Israël a un État, alors c'est plus cadré, donc c'est plus civilisé. Ça n'a rien de civilisé, c'est des centres de détention où on pratique la torture, le viol, etc. Donc il n'y a rien de civilisé là-dedans. C'est juste, voilà, on reproche aux Palestiniens de résister avec des moyens qui ne sont pas terribles, clairement, prendre en otage des enfants ou quoi. Mais ce que fait Israël ? Israël peut détenir des enfants palestiniens à partir de l'âge de 12 ans à perpétuité, alors qu'un enfant juif, non. Voilà, enfin, je veux dire, c'est la barbarie commence du côté israélien.
Alors, Myriam Laribi, le sous-titre de votre livre, donc, c'est Gaza, le génocide et les médias. Justement, quelles sont les forces en présence qui les forces de manipulation du message, justement. Pourquoi est-ce que, en France notamment, vous parlez donc du fameux Hasbara, un mot hébreu donc qui signifie, qu'on peut traduire par explication. En quoi consiste donc cette explication ? Quels sont les relais de cette stratégie, cette propagande en France ?
Oui. La Hasbara, ça veut dire donc explication en hébreu. Vous savez que les Israéliens, ils ont un nom pour tout. Ils aiment bien nommer leur guerre, leur assemblée nationale, la Knesset, leur armée, Tzahal. Ils ont toujours un nom pour quelque chose. Et pour leur propagande, ça s'appelle Hasbara. Et ils ont des relais, bien sûr, en France, qui sont soit des personnalités politiques, médiatiques, comme celles qui sont regroupées sous la bannière du front du, comment ça s'appelle, Printemps républicain. Donc vous avez des gens comme Caroline Fourès, qui est une pièce maîtresse de la Hasbara, Raphaël Antoven, Rachel Kahn, Sophia Aram, toutes ces personnalités médiatiques, soi-disant journalistes et tout, et qui sont au service de l'atlantisme et du sionisme, clairement. Je veux dire, c'est pas, ils reprennent les éléments de langage mot pour mot qui sont diffusés à l'international par l'ASBA. Des politiques aussi, comme Aurore Berger, par exemple, qui jusqu'à aujourd'hui, sur son compte Twitter, il y a encore la fausse information sur les 40 bébés décapités, soi-disant, le 7 octobre 2023. Rappelez-vous, on nous avait dit qu'il y avait eu 40 bébés décapités par les mecs du Hamas. Il n'y a pas eu de bébés décapités, en fait, zéro. Et cette fausse information est toujours sur les comptes Twitter de ministres, par exemple, comme Aurore Berger, Prisca Thévenot aussi. C'est, tout ça, c'est des gens qui sont des relais. Et il y a, bien sûr, ensuite, les organisations, comme le CRIF, qui a quand même une puissance d'influence sur le gouvernement français, quel qu'il soit, qui questionne au nom de quoi, en fait. C'est pourquoi ? Pourquoi cette CRIF, donc Conseil représentatif des institutions juives de France, fait la pluie et le beau temps et influence et même critique de manière si virulente le gouvernement français dès qu'il va avoir une position un peu pro-palestinienne et qui... Quelle organisation d'une autre communauté fait ça par rapport à un pays ? Je veux dire, c'est le CRIF, quel que soit le gouvernement israélien, quel qu'il soit. Bon, en général, Israël, c'est toujours à droite. Hein, ça a rarement été... Enfin, il n'y a pas de gauche réelle là-bas. Ils sont une extrême minorité. La vraie gauche parle anticoloniale. C'est vraiment... Et ça représente entre 2 et 4% de la population au grand maximum. Donc, c'est vraiment une société d'extrême droite. Mais quand bien même, je veux dire, le CRIF, quel que soit le gouvernement israélien, va soutenir bec et ongle le gouvernement israélien et tout faire pour que Israël soit ici soutenu, voilà, comme une cause existentielle pour le peuple juif. Or, moi, je pense que c'est une très mauvaise analyse de la réalité. Je ne pense pas qu'Israël serve les intérêts des juifs dans le monde, encore moins ceux des juifs français. Et voilà, donc vous avez chaque année, par exemple, hier il y avait le dîner du CRIF, et bien vous avez le Premier ministre, parfois vous avez même le président, certaines années, qui viennent et qui se font sermonner, comme hier nous avons vu le président du CRIF en train de sermonner le Premier ministre, le président, etc. Et donc celle-là, le CRIF, vous avez la LICRA, qui est complètement pro-israélienne et sioniste. Donc c'est censé soi-disant être la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. C'est plutôt la Ligue contre l'antisionisme, moi j'ai l'impression. Et elle net au niveau européen. Pour les étudiants, vous avez l'UEJF, qui est très nocif, qui fait un travail vraiment de trouble à l'ordre public dans les universités. Dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a des conférences, ils viennent essayer de troubler, c'est-à-dire ils viennent faire des pieds et des mains pour faire interdire, enfin trouble à l'ordre public, je veux dire, troubler toute forme de séminaires universitaires, hein, académiques. Par exemple, ils l'ont fait là récemment à l'ENS, à l'École normale supérieure. Il y avait un séminaire qui était prévu et il y a une conférence qui ne leur a pas plu. Ils ont fait des pieds et des mains pour faire interdire la conférence. Ils ont réussi à faire en sorte de voir le ministre dans le bureau du directeur de l'ENS en 3 jours. Le ministre d'enseignement supérieur, quelle association a ce pouvoir de rencontrer un ministre en 3 jours ? Nous, journalistes, pour interviewer un ministre, on ne peut pas interviewer un ministre. Je veux dire, à part si vous travaillez, si vous travaillez pour BFM ou quoi. Et encore, mais l'UEJF claque des doigts et elle a le ministre dans les bureaux de l'ENS au bout de 2 jours pour faire interdire une conférence. Ces gens ont une influence sur la politique gouvernementale qui est très inquiétante par rapport à la pluralité, par rapport ils n'hésitent pas à sermonner et à essayer d'influer au maximum sur la politique gouvernementale vis-à-vis d'Israël. Voilà.
On continue à parler de votre livre, Myriam Larrabi, je rappelle le titre, CJ, l'humanité, Gaza, le génocide et les médias. C'est aux éditions Critique.
Pause musicale ?
Ouais.
Pardon, je parle beaucoup.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
La musique de Zenobia, un duo palestinien. Le titre du morceau, c'est Alak Alak. Je suis toujours en compagnie de Meriem Laribi, qui publie Sigi l'humanité, Gaza, le génocide et les médias aux éditions Critiques, avec une préface d'Alain Grèche. Meriem Laribi, en décembre 2023, vous êtes présente au point presse du porte-parole du gouvernement français à l'Élysée. Ça, c'est intéressant, cette partie-là. Déjà, qu'est-ce qui vous pousse à vous rendre dans ce lieu?
Alors, à partir...
C'est pas rien, quand même.
Oui. En fait, j'étais un peu désœuvrée parce que j'étais journaliste indépendante. Je voulais plus travailler que sur la Palestine. Oui, comme vous l'avez dit, donc je collabore avec des médias comme Le Monde Diplo, Orient 21, Off Investigation et d'autres. Mais j'étais tellement impliquée dans l'information sur les réseaux sociaux, etc. Je voulais tellement transmettre d'informations que je n'avais pas en fait un média derrière moi dans lequel j'aurais pu écrire tous les jours des informations par rapport à ce qui se passait à Gaza et que je ne voyais pas dans les autres médias. Donc j'ai rongé mon frein, j'étais un peu en colère par rapport à ça et je voyais des événements terribles se produire à Gaza qui n'étaient pas du tout retransmis dans les médias. Et un jour à Gaza, il y a eu un événement horrible qui m'a vraiment beaucoup beaucoup choquée à propos de bébés abandonnés dans un hôpital que Israël a forcé, dont Israël a forcé l'évacuation. Les infirmiers et les médecins ont dû abandonner 5 bébés dans les couveuses.
Vous en parlez dans le livre.
Voilà, hein. Ouais, qui ne pouvaient pas être déplacés. Mmh. Israël les a forcés à quitter sous peine d'être tués et a promis de s'occuper de ces bébés, parce qu'ils ont été informés de la présence de ces bébés dans l'hôpital Al-Nasr à Gaza. Et en fait, ils ne se sont pas occupés de ces bébés. Ces bébés ont été retrouvés 2 semaines après, morts dans leur lit.
Et donc, putréfaction.
Oui, c'est ça. Et c'était quelque chose de très, très, très choquant pour moi. Et je n'ai pas vu cette information dans les médias. Par contre, j'ai vu un confrère états-unien et palestinien qui s'appelle Saïd Arekat, qui est allé à la Maison-Blanche interroger Matthew Miller, au porte-parole de la Maison-Blanche, sur le sort de ses enfants, en disant que c'était un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité. Et donc, je l'ai vu et je me suis dit, pourquoi moi je ne fais pas ça? Pourquoi je ne ferais pas ça, moi? Il doit bien y avoir des conférences de presse ici avec les porte-paroles du gouvernement. Je vais faire la même chose. Et donc, je me rends pour la première fois, effectivement, le 12 décembre 2023, à l'Élysée. Je comprends assez rapidement que je peux le faire, puisque j'ai une carte de presse. Donc, il suffit juste d'avoir une carte de presse pour pouvoir aller interroger les porte-paroles du gouvernement. Et j'y vais. C'était Olivier Véran, à l'époque, porte-parole du gouvernement. Et je lui raconte, exactement comme le collègue palestino-états-unien le fait devant le porte-parole de la Maison-Blanche, je raconte cet événement sordide, horrible.
Encore une fois, factuel, hein, factuel, c'est un fait constaté.
Bien sûr. Et Matthew Miller, porte-parole de la Maison-Blanche, avait pris la peine devant ce confrère palestinien américain de dire que c'était terrible pour ses enfants, pour leur famille et pour l'humanité tout entière. Mais bon, que c'était de la faute du Hamas. Mais prends le temps. Moi, Olivier Véran, donc, je lui raconte cette histoire épouvantable. Et à la fin de ma question, donc à la fin, je lui dis, est-ce que vous comptez demander une enquête internationale sur cet événement et sur d'autres crimes de guerre commis par Israël à Gaza? Et en fait, il me regarde, il sourit. Et avec ses doigts, il dit « j'ai entendu votre question », en mettant le mot « question » entre guillemets avec ses doigts. Et il sourit alors qu'Olivier Véran est médecin. Et j'étais extrêmement choquée de cette réaction, vraiment zéro compassion. Même pas jouer la comédie de la compassion. Il ne fait même pas cet effort, tellement il méprise en fait. Il méprise, je ne sais pas, il y a un mépris total en fait des vies palestiniennes ici qui est revendiqué, assumé. Et c'était très choquant. Donc j'étais très fâchée. Je suis sortie de là, j'ai marché 2 heures à peu près. Et je me suis dit, bon, écoute, t'es pas affilié à un journal, tu vas faire ça en fait maintenant. Et donc j'allais toutes les semaines. Je me suis dit, ah, c'est comme ça, alors ça va pas se passer comme ça. Moi, je vais retourner chaque semaine et on va parler de Gaza chaque semaine ici. Parce qu'il faut savoir qu'à l'Élysée, pendant des mois, en tout cas quand moi j'y suis allée, entre décembre 2023 et à peu près mai 2024, j'étais pratiquement la seule journaliste à poser des questions sur Gaza à l'Élysée.
La seule?
La seule, ouais. À l'Élysée. Hein. Mm-hmm. Après, je suis allée aussi au Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères. Là, il y avait d'autres journalistes internationaux et ça posait des questions sur Gaza. Mais à l'Élysée, j'étais la seule, ouais.
Mais justement, quand vous êtes à l'Élysée, Meriem Laribi, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez les autres journalistes, ils ont peur et c'est qu'est-ce qui empêche? qu'est-ce qui leur empêche de poser des questions? On est, jusqu'à nouvel ordre, dans un pays libre. Mm. Pourquoi est-ce que la presse est-elle si gênée, si embarrassée pour poser des questions sur Gaza au porte-parole du gouvernement français?
Je pense que beaucoup s'en fichent, malheureusement. Que d'autres viennent pour des questions précises parce qu'ils sont envoyés par leur rédaction. Donc c'est les grandes agences, les radios, etc. Et dans les questions qu'on leur demande de poser, il n'y a pas Gaza. Donc c'est un problème de chefferie qui ne demande pas... voilà. Et il y a d'autres qui vraiment s'en fichent. Et par exemple, on a eu... j'imagine que vous allez peut-être me poser la question là-dessus. Et après, j'ai été rejointe, moi, par un collègue journaliste qui, lui aussi, posait parfois des questions sur Gaza, qui s'appelle Jimmy Salini, mais qui posait aussi des questions sur plutôt le national. Mais on a été pris à partie par des confrères. Enfin, entre guillemets, je vais le mettre, parce qu'on nous a dit on n'est pas confrères. On n'a pas la même façon d'exercer le métier. On nous a, franchement, c'est un peu une façon de nous agresser, un peu pris à partie.
Des confrères et des consoeurs journalistes qui
c'est
vous disent ça.
C'est ça, de radio, de grandes radios françaises. Qui nous ont pris à partie et qui nous ont dit des choses comme moi, on m'a dit, un journaliste d'une grande radio m'a dit pourquoi tu reviens chaque semaine poser des questions sur Gaza alors que la position du gouvernement n'a pas évolué sur Gaza. Voilà, c'est sa façon de voir le journalisme. Je lui dis, mais la situation à Gaza, elle a évolué. Il y a 1000 morts de plus que la semaine dernière. Donc moi, j'ai besoin qu'on parle de Gaza parce que c'est pas une petite actu. Pourquoi vous parlez de l'Ukraine, par exemple? L'Ukraine, vous venez vous poser des questions, mais Gaza, c'est pas un sujet. Donc vous êtes aligné sur le narratif du gouvernement. Mais c'est ça, C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de journalistes qui viennent faire recevoir les éléments de langage des porte-parole et puis rentrent chez eux, quoi. Ils ne sont pas là pour questionner, en fait, pour apporter des nouvelles questions, d'imposer l'actualité, imposer des... Non, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire imposer Gaza à l'Élysée et puis relancer aussi. Il y avait ça aussi, c'est ça qui a gêné un peu les autres collègues. Et au lieu que ça les amuse ou qu'ils me soutiennent, puisqu'on est confrères... Eux, ils avaient ce micro à disposition dans la salle et puis ils ne s'en servaient pas en fait. Ils allaient poser la question puis ils allaient s'asseoir. Moi non, moi je posais la question puis la porte-parole, parce qu'ensuite c'était Prisca Thévenot, me répondait ces éléments de langage. Je ne me contentais pas de ces éléments de langage. Je lui disais, ça n'a pas de sens ce que vous me dites. Vous ne répondez pas à ma question, répondez à la question. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple sur les sanctions. Contre Israël. Pourquoi il n'y a pas de sanctions contre Israël? Pourquoi la France... Par exemple, j'ai dit à plusieurs reprises à la porte-parole, je lui ai dit pourquoi la France applique des sanctions contre le Venezuela, par exemple, depuis 2017, sans interruption. D'ailleurs, des sanctions qui ruinent le peuple vénézuélien et le pays. Et pas contre Israël, parce que vous considérez peut-être que la situation des droits de l'homme est plus dégradée au Venezuela qu'à Gaza. Donc je posais ce genre de questions. Et elle répondait pas, et moi je relançais, etc. Donc ça prenait un peu plus de temps quand même, je dois le reconnaître, que les autres collègues qui, eux, posaient une question, prenaient les éléments de langage, et ciao, ils allaient s'asseoir. Donc moi, du coup, ça prenait un peu plus de temps, 2 à 5 minutes parfois, et ça les agaçait. Ils disaient, vous transformez ça en interview, c'est pas le lieu, alors c'est pas du tout une interview, c'est vraiment quelque chose où on prend le temps de discuter. Là c'était pas ça, c'était répondre à ma question. C'est pas parce qu'elle ne veut pas répondre à ma question que je dois me soumettre, moi, en tant que journaliste. Voilà, donc on a eu des altercations verbales, disons, avec des confrères, entre guillemets, qui montrent à quel point en tout cas les journalistes qui étaient là, il y a une connivence totale avec le pouvoir pour un grand nombre d'entre eux. C'est des gens qui viennent du même milieu social, qui font les mêmes études et qui, certains finissent au gouvernement et d'autres finissent journalistes sur BFM ou sur, je sais pas, une grande radio.
Mais Rabhi, vous soulignez aussi le fait, quand la Cour internationale de justice, qui est donc la plus haute juridiction de l'ONU, donc tente de condamner Israël, la presse française ne reprend pas du tout, notamment la plaidoirie de l'Afrique du Sud. En revanche, elle reprend la réaction d'Israël.
Ça, c'était incroyable. C'était incroyable, incroyablement éloquent. C'est-à-dire quand l'Afrique du Sud a attaqué Israël devant la CIJ pour génocide, et le jour où l'Afrique du Sud fait ses plaidoiries toute la journée, il y a 0 article dans la presse française et internationale aussi, anglophone. Et le lendemain, c'est Israël qui se défendait devant la CIJ, et là, tout le monde a couvert. C'est délirant. C'est-à-dire, on ne se fait pas des films, c'est factuel. Quand on parle de poids de mesure, quand on parle de propagande pro-israélienne, c'est pas une vue de l'esprit. C'est, on peut quantifier ça. Et d'ailleurs, j'encourage vos auditeurs à aller consulter les articles aussi d'Acrimed, qui a fait un travail chirurgical là-dessus, qui montre, ou d'Arrêt sur image, qui montre ça. Par exemple, Arrêt sur image a fait un article sur, sur ce, que je viens, ce dont on vient de parler, sur la, la non-couverture.
Et vous, vous soulignez également, Myriam Larribi, la duplicité du langage du président Macron. Par exemple, quand il donne une interview au quotidien britannique The Guardian, il se sent plus libre de condamner Israël que quand il parle à un média français.
C'est ça, dans un premier temps, c'était ça. Quand il a voulu un peu prendre ses distances avec, avec Israël et condamner ce qui se passait à Gaza, il a fait ça sur la BBC et sur The Guardian. Je crois que c'était ça, c'était The Guardian.
The Guardian,
et donc, parce que les médias français... Oui, c'est bien sûr. Enfin, Macron, c'est le en même temps. Ça, vraiment, si quelqu'un est capable de déchiffrer la politique de Macron, où que ce soit, mais alors par rapport à la Palestine, c'est vraiment n'importe quoi. Il va critiquer et puis il va critiquer. D'ailleurs, quand il a fait ça, quand il a critiqué Israël sur la BBC et tout, Netanyahou et son gouvernement leur sont tombés dessus, lui sont tombés dessus et tout de suite il rétropédale. C'est vraiment C'est la soumission politique au desiderata d'Israël, quoi. C'est Macron sacrifie. C'est-à-dire, il n'a pas aucune ligne politique par rapport à la Palestine. Ils sont prêts à sacrifier le droit international, par exemple, parce que Netanyahou est sous mandat d'arrêt. Est recherché pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Et Macron a dit qu'il pouvait bénéficier d'une immunité. C'est imaginaire, hein. C'est de la complicité. Il a laissé Netanyahou survoler le territoire français quand celui-ci s'est rendu aux États-Unis. Voilà.
Et vous soulignez également, Myriam Larribi, le fait qu'un pays comme l'Irlande, il y en a d'autres, hein, l'Espagne et l'Irlande, que vous citez en exemple notamment, ont des positions beaucoup plus claires, beaucoup plus tranchées. Et vous dites que peut-être que dans le cas de l'Irlande, ça s'explique historiquement parce que c'est un pays qui fut occupé.
Bien sûr, qui a été colonisé. Les Irlandais n'ont pas oublié ce que c'était que la colonisation et jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mais surtout au niveau de la population irlandaise, il y a un soutien immense. Très rapidement, les Irlandais, ils étaient, je ne sais pas, 90%, je crois. Ils étaient sondés à dire qu'il se passait un génocide à Gaza. Ils n'ont pas besoin d'écouter les médias mainstream, en fait. Ils savent. Ils reconnaissent une situation d'oppression coloniale parce qu'ils l'ont subi dans leur chair. Donc, c'est plus facile, en fait, quand dans ton histoire, tu sais ce que c'est d'identifier l'oppression coloniale. C'est plus simple. Enfin, pour moi, elle est évidente. J'imagine que pour vous aussi. Et apparemment... ostensiblement, ce n'est pas le cas de tout le monde, de voir qu'on est dans un rapport totalement injuste et qui doit être remis en question de A à Z.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et est-ce que vous croyez qu'il y a eu un lien, qu'on peut établir un lien, entre ce qui se passe en Palestine et l'islamophobie en France ?
Sur le traitement médiatique, oui, il y a un lien, puisqu'on a vu l'extrême droite et la droite et la fausse gauche s'aligner sur Israël. Netanyahou a joué là-dessus. Netanyahou essaye de faire de la lutte qu'il mène contre les Palestiniens une lutte soi-disant anti-islamiste, anti-djihadiste. C'est très malin de sa part. Il a réussi à islamiser le visage de la résistance palestinienne, parce qu'au départ, la résistance palestinienne, c'est pas du tout motivé par la religion. Quand à l'époque de la grande époque de l'Organisation de la libération de la Palestine, Arafat, etc., c'était pas des islamistes du tout. Et le fait que maintenant la branche dominante qui est celle du Hamas et etc., du djihad islamique, ce soit voilà, des gens qui ont l'apparence de l'islamisme, en tout cas, c'est des islamistes, bien sûr. Mais je veux dire, il est malin. Netanyahou a tout fait pour l'ascension du Hamas. Il a aidé à ça, d'ailleurs, en 2019.
C'est documenté, ça.
Oui, c'est documenté. C'est plein de documents là-dessus. Et ça, c'est pour qu'en Occident, pour quelqu'un qui regarde de loin, il fasse l'amalgame entre Hamas et, par exemple, Daesh, alors que ça n'a rien à voir. Par exemple, Hamas a condamné les attentats ici en France de 2015. Ils avaient condamné, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de rapport. Et donc, Netanyahou et ses relais ici. C'est quoi qu'on a entendu? C'est genre Israël mène le combat en notre nom à tous. C'est pour nous défendre tous en fait. Ils salissent les mains pour nous défendre. Donc pour essayer de justifier le fait qu'Israël tue majoritairement des femmes et des enfants, on nous dit non, t'as pas compris. En fait, ils luttent contre l'islamisme et donc tout ça mènera à nous sauver nous-mêmes contre ces méchants islamistes qui veulent tout notre mort ici, puisque ici c'est... Voilà. Et d'ailleurs, un petit mot là-dessus sur le printemps républicain qui essaye de se donner un vernis de gauche, qui est rien de gauche évidemment, mais qui sont ultra islamophobes, tous les gens du printemps républicain. Vous remarquerez quand même qu'ils sont, c'est quand même important, ils sont laïcs ici, soi-disant. Ils disent qu'ils sont laïcs. Ils sont islamophobes, bon, clairement. Donc, ils s'en prennent aux musulmans et à toute forme de pratique de l'islam ici. Donc, ultra islamophobes ici. Laïcs en France, mais en Palestine, ils sont suprémacistes juifs. Je veux dire, ça leur pose aucun problème que ce soit un État théocratique où les ministres s'appuient sur la Bible, etc. Ça, c'est, enfin, il y a un problème de cohérence chez ces gens-là. Moi, si je les avais en face, je leur dirais, mais comment tu peux être laïc ici et suprémaciste juif là-bas? Est-ce que tu peux m'expliquer où est ta logique? T'es juste islamophobe, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. C'est juste ça.
Alors, il y a le fait aussi, Myriam Laribi, alors, mis à part le travail que vous faites, on en a parlé, quelle autre voix anticoloniale entendez-vous, voyez-vous, qui essaie donc de s'opposer à cette construction d'un discours de propagande pro-israélienne ici en France?
Quelle autre voix? Vous parlez de personnalités?
Oui, de médias. Que ce soit donc des médias, des personnalités, des associations. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'elles sont suffisamment fortes pour contrecarrer en tout cas ce...
Bon, la France insoumise a fait un gros travail, bien sûr, de résistance face à l'imposition d'un discours pro-israélien depuis le 7 octobre. Ils ont résisté courageusement parce qu'ils se sont pris des torrents de boue. Bien sûr, Rima Hassan, bien sûr, les gens de Urgence Palestine, voilà, toutes les associations qui défendent les Palestiniens, que ce soit Urgence Palestine, la FPS, voilà, je ne vais pas en oublier, l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, CEDEC qui s'est formé depuis le 7 octobre. Donc
c'est récent. Hein.
Des collectifs juifs décoloniaux. Et puis les médias indépendants qui ont fait un très bon travail quand même pour la plupart, Acrimed, Le Monde Diplo, Arrêt sur Image, Blast, Le Média, voilà, c'est heureusement que ces médias existent et ont donné la voix, voilà, de la voix. Et au niveau des personnalités, Émeric Caron, que je trouve très courageux, les députés de la France Insoumise en général, qui vraiment prennent plein la gueule, des menaces, etc. Ils prennent vraiment très très cher en termes de menaces. Rima prend énormément de menaces. C'est horrible, je veux dire, ce qu'elle subit en termes de tentatives d'intimidation. Elle résiste et elle n'est pas du tout protégée par le gouvernement français. Pour beaucoup moins que ça, on mettrait des gens sous protection policière. Elle n'est pas protégée du tout. Et puis, il y a les universitaires qui sont malheureusement pas assez entendus, qui ont été très intimidés aussi. J'ai écrit un article que je...
Intimidés.
Ah oui, les universitaires. J'ai bien écrit un article justement pour Orient 21 sur la façon dont on a intimidé les chercheurs, les professeurs, etc. sur l'expression de l'histoire, sur l'histoire de la Palestine et du contexte palestinien qui est terrifiante pour la liberté académique en France. Ils sont en train d'ailleurs d'essayer de faire passer une loi contre l'antisémitisme à l'université qui amalgame totalement antisémitisme et antisionisme et qui a pour objectif de réprimer les voix qui s'expriment trop sur la Palestine à l'université. Non, ça fait peur, hein, ce qui se passe en France. Et moi, la seule chose que je vois et où je pense qu'il faut qu'on aille, c'est ce que j'essayais de dire au début de cette émission, et où ne va pas la France insoumise pour le moment, c'est qu'il faut arrêter avec la solution à deux États. Il n'y a pas de solution à deux États. C'est de la poudre aux yeux. Israël n'a jamais eu l'intention de laisser naître un État palestinien, puisque Israël est un État colonial expansionniste. Et quand il en aura fini avec les Palestiniens, il ira ailleurs, aux frontières, aux pays frontaliers. Donc en fait, il faut arrêter avec cette fable. Ça, c'est quelque chose qu'on nous sert depuis longtemps. Moi, j'en peux plus de ça. Je pense qu'il faut décoloniser la Palestine de la mer au Jourdain et qu'il faut que la justice soit rétablie. C'est-à-dire que les Palestiniens expulsés, les millions de réfugiés qui sont dans les pays environnants et dans le monde, puissent rentrer chez eux et essayer, il y a rien, c'est irréparable ce qu'a subi le peuple palestinien, mais qu'il y ait des réparations en tout cas, et que les Israéliens cessent de se comporter comme des colons, parce que c'est un État colonial abominable qui est en train de vraiment, en fait, qui, vous savez, c'est Fanon qui disait que la colonisation déshumanise en fait le colon, plus que le colonisé, et on le voit dans la société israélienne est malade de son colonialisme. Ça, c'est très très grave ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se sortir de l'humanité eux-mêmes par des actions atroces. Quand on voit par exemple que 100 médecins israéliens civils, dont des pédiatres, appellent à bombarder les hôpitaux de Gaza, avec patients patients et blessés à l'intérieur, voilà, on les a perdus.
C'est insensé.
On les a perdus, vraiment. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et le peu d'Israéliens juifs qui essayent de résister à ça et qui sont anti-sionistes se sont réprimés férocement, en fait. Il n'y a aucune démocratie là-bas. Il y a démocratie si vous êtes sioniste et juif de préférence, parce que c'est mal parti pour vous. Voilà, moi, je pense qu'il faut que la gauche change de discours là-dessus. C'est-à-dire que ça suffit, les deux États, même si, d'accord, c'est la solution de l'ONU, etc., mais ça suffit maintenant. Il faut décoloniser, il faut avoir le courage qu'ont eu, je sais pas, les peuples qui se sont libérés, en fait, de dire, stop à la colonisation. Maintenant, les gens qui sont là-bas, soit ils cessent de se comporter comme des colons et ils acceptent de vivre à égalité avec les Palestiniens. S'ils sont pas capables de vivre à égalité et qu'ils veulent être suprémacistes, ils partent, parce que c'est pas le pays appartient au peuple autochtones de ce pays, c'est-à-dire les Palestiniens, et les Juifs bien sûr aussi, et les chrétiens aussi, mais il faut qu'ils acceptent tous le contrat social de vivre à égalité. Il n'y a pas de peuple supérieur à d'autres. D'ailleurs, le leader de la révolte du ghetto de Varsovie qui avait dit ça, Marek Edelman,
qui était pour Palestine lui aussi,
bien sûr. Et qui avait dit, pour moi il n'y a de place ni pour un peuple élu ni pour une terre promise. Quand on a décidé de vivre au milieu des Arabes, on se mélange à eux, donc et on laisse faire le métissage, quoi.
Juste pour finir, Myriam Larrivé, on pourrait rester 2-3 heures là-dessus.
Ouais, désolé, je suis bavarde.
Qu'est-ce que l'écriture de ce livre, est-ce que en termes de catharsis, est-ce que ça vous a fait du bien d'écrire ce livre? Qu'est-ce que cela vous a apporté d'avoir écrit ce livre, donc de plus de
oui, oui, ça m'a fait du bien et du mal, parce que du coup j'ai pas du tout sorti la tête de l'eau jusqu'à au moment où on se parle, hein. Je suis 24 heures sur 24 pratiquement, sauf quand je m'occupe de ma famille, sur ce qui se passe à Gaza. Donc c'est dur, comme les Palestiniens, on pleurera plus tard. On essaiera de se remettre de ce génocide plus tard, mais oui, ça m'a fait du bien dans le sens où j'ai eu l'impression de faire quelque chose qui pourra être utile pour l'avenir et dès maintenant, en fait, par rapport à l'information nécessaire que mérite ce peuple qui est déshumanisé et voilà, et qui est pas traité de manière juste par les médias français.
Donc voilà, je rappelle le titre du livre, Sigi, l'humanité, Gaza, le génocide et les médias. C'est aux éditions Critique que nous saluons. Merci beaucoup, Myriam Larrivé.
Merci, Patrick.
L'antenne d'Aligre FM. Le temps de remercier Armand Gury et René Cancy qui étaient à la réalisation technique ce soir. De vous souhaiter une bonne soirée à l'écoute d'Aligre FM. De vous souhaiter également de bonnes vacances, un bel été. À bientôt.
Au revoir. Original. Patrick, Léon Émile.
Waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got to win the baby on my bitch's student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster sent us the corner hugger. Seeing this nigga shining, annoying me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.